Hey, bon midi Québec. Bienvenue en jase le midi avec Jeff Fortin et Pascal CV. Votre nouvelle émission de l'heure du lunch depuis hier sur les ondes de Boulevard 102.1. Ça nous fait un immense plaisir d'être avec vous. On était comme des fourmis à préparer cette émission-là. Il y a de l'actualité rien qu'en masse aujourd'hui. La coroner Gayane Gamel qui a déposé son rapport. On va évidemment parler rapport sur cette fillette à Grimby qui est décédée en 2019 de mauvais traitement. Donc, c'est clair qu'on en parle. On va parler de la commission Galant. On va également parler de Nordvolt. On a Lambert Drainville qui va être là pour une première fois, compté de 13 heures. Ruba Gazal va être avec nous également, co-porte-parole de Québec solidaire aux alentours de 12h30. On veut parler entre autres avec Ruba Gazal des prières dans les rues. Qu'est-ce que QS en pense de ces prières-là de plus en plus fréquemment faites à Montréal? Est-ce que ça s'en vient à Québec? Comment QS se positionne? On sait le positionnement de la CAQ qui veut passer une loi pour les interdire. Le PQ est pour la loi de la CAQ. Donc, comment QS se positionne? On va parler de tout cela avec Ruba Gazal. Pascal nous a préparé un bon dossier également sur, justement, tout ce qui a entraîné le décès de la fillette, c'est-à-dire la commission Laurent, le rapport de la coroner aujourd'hui, Gamel. Mais avant ça, vous le savez, on commence et on se lance directement avec...
Le caucus. Boulevard. Le caucus. 102.1. Voici Antonin Iaccarini.
Pascal CV, Antonin Iaccarini, format caucus, comment allez-vous ce midi, mesdames?
Comment mal aller? En tout cas, comment manquer de job? Ça peut pas arriver.
Puis vu qu'on est un peu workaholic, ben on est heureuse.
On s'en parle constamment.
Et voilà, ça va très, très, très bien, justement. Et là, dans le caucus, je l'ai parti rapidement parce que faut pas perdre de temps.
Non, pas de temps.
On a des choses à jaser. Trois sujets importants à jaser. Antonine et... Comme je suis très courtois avec les mesdames, je vais commencer dans l'ordre que tu me les as envoyés. C'est-à-dire, on commence tout d'abord avec la commission Galant, mais on veut regarder ça sur un angle différent. Le travail des oppositions et surtout le travail du Parti libéral du Québec, c'est une première sortie pour Pablo Rodriguez hier dans la hot room de l'Assemblée nationale. Bon, ça m'a pas nécessairement charmé. Je ne sais pas, toi, ce que tu en as pensé.
Écoute, honnêtement, pour un homme qui a autant d'expérience politique, c'était ardu. Mais c'est connu, hein, quand un député ou un élu a travaillé à Ottawa sur la colline parlementaire, ils font un saut quand ils arrivent à Québec. C'est pas du tout la même ligue en termes de journalistes, là, la meute. On peut pas s'en sortir avec une petite phrase creuse, un petit slogan, puis on passe à un autre appel. Les élus sont très accessibles. Puis, tu sais, des fois, évidemment, les journalistes vont se plaindre qu'ils sont passés par la porte en arrière, qu'ils refusent des entrevues, etc. Mais on a des élus qui sont quand même très accessibles. Donc, quand on arrive d'Ottawa, où c'est très différent, où on est très communiqué de presse à 15 heures, puis bonjour, puis on
c'est
se crompe pas.
C'est plus cadré. Les gens, les journalistes ont moins la possibilité de revenir sur une question. C'est là, ils poussent pas comme on pousse ici au provincial.
Ça pousse moins. Il y a aussi, historiquement, avec le passage de Stephen Harper comme premier ministre, ça a été très, très resserré. C'est resté comme ça sous Trudeau.
C'est une ambiance Québec, parce qu'en politique municipale, moi, pour couvrir les points de presse en politique municipale, les journalistes sont gossants. Ouais. Ça pose la question. Ça n'a pas la réponse, ça relance la
Absolument.
Question jusqu'à temps que ça ait la réponse. Donc, c'est une ambiance journalistique Ville de Québec?
Absolument. C'est vraiment dans le même style. Puis des fois, par exemple, si c'est une conférence de presse qui est plus organisée, là, c'est une question, une sous-question par journaliste. Puis des fois, quand la question n'a pas été répondue, ben, les journalistes vont avoir une certaine solidarité entre eux. Ils vont la reposer, la question. Il y a un effet de meute sur les collines parlementaires ou à l'hôtel de ville, où il y a une espèce de solidarité qui s'installe. Et Pablo Rodriguez a quand même goûté à cette médecine-là hier. Là. Lui s'en allait parler de la SAC, donc de sa clique. Hier, le Parti libéral a demandé que Geneviève Guilbeault et François Bonnardel soient sortis du Conseil des ministres, trouvaient qu'ils ne méritaient plus de faire partie du Conseil des ministres avec ce qui s'est passé dans les révélations de la commission Galant. Et a aussi demandé une tutelle pour la SAC, mais pas une tutelle gérée par le gouvernement, mais par une entité externe.
une firme externe. Mais ça, mon chef dérangé était contre ça.
Absolument. Puis, d'ailleurs, je trouve que c'est vraiment un faux pas de la part de Pablo Rodriguez ou du Parti libéral si, par exemple, on considère que mon chef dérangé n'avait pas la bonne position. Mais là, il y a une incohérence entre le député qui fait vraiment un super bon travail, qui est reconnu par tout le monde depuis le début de la commission Galant et du dossier Ça clique, mon chef dérangé, député libéral, qui lâche pas le morceau. Et là, tu as un nouveau chef, Pablo Rodriguez, qui vient d'arriver et qui change un peu la position qui était portée par Monsef Deragi. Et bon, ça a créé des questionnements aussi chez les journalistes pendant ce point de presse dans ce qu'on appelle le « hot room ». Parenthèse, le hot room, tu sais, tantôt, je parlais d'une conférence de presse, organiser une question de sous-question. C'est pas comme ça que ça se passe, un hot room. C'est pas pour rien qu'on appelle ça comme ça. Les journalistes posent des questions à l'infini, dans le désordre. Si tu veux, tu peux reposer une question à la fin. Puis, dans le fond, le ministre ou l'élu va quitter quand il est tanné. Tu sais, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et il s'est fait brasser. Pablo s'est fait demander aussi pourquoi il n'y avait pas la même position que Monsef Deragi. Puis, on voyait quand même qu'il y avait un petit malaise.
Et Monsef face, était juste derrière.
Oui, comme une petite plante verte. Il avait fait une petite intro avant.
Oui.
Mais pendant que M. Rodriguez parlait, le visage de Monsef Deragi était... Il regardait l'infini. Là. Il avait le regard un peu dans l'infini. Là. J'entendais comme une petite chanson de Simon & Garfunkel dans ma tête là, pendant que je regardais son visage. Il n'avait pas l'air très content.
Et ce matin, on a eu Monsef Deragi en entrevue, justement, parler de la commission Galant. Et moi, je me suis permis de lui poser des questions concernant le projet Nordvolt. Parce que hier, Pablo Rodriguez a envoyé sur X le tweet, là, j'appelle encore ça le tweet suivant, le dossier Nordvolt, l'échec total de François Legault. Mais pour la petite histoire, c'est François-Philippe Champagne, le ministre de l'Économie sous le gouvernement Trudeau, alors que Pablo Rodriguez est ministre du Transport, qui convainc Québec d'y aller avec Nordvolt. Voici la première réponse de Monsef. Vous allez voir dans l'extrait, je le relance. Il donne une deuxième réponse. Je veux qu'on parle de son niveau d'aisance après, mesdames.
Le montage financier du projet, les pertes sont des pertes québécoises, de l'argent des Québécois. Le fédéral, oui, il y avait l'intérêt de développer beaucoup de projets dans la filière batterie un peu partout au Québec. Il a répondu à l'appel aussi du gouvernement du Québec de François Legault. Et souvenez-vous.
Ouais, attendez, moi je vais refaire l'histoire avec vous. C'est François-Philippe Champagne qui parle au gouvernement du Québec à Pierre Fitzgibbon en lui vantant les mérites de Nordvolt. Et ce n'est pas le contraire, c'est une initiative du gouvernement fédéral Nordvolt. Et le Québec est embarqué là-dedans, pieds joints, a fait une des plus grosses erreurs de son histoire. Mais c'est une initiative du gouvernement Trudeau dans lequel Pablo Rodriguez était ministre des Transports à ce moment-là.
Oui, écoutez, c'est facile de dire que parce qu'il était ministre du Transport d'un gouvernement, qu'il est responsable. Et le premier responsable, c'est celui qui a signé le chèque pour notre vote, qui a payé pour le terrain. C'est M. Legault, c'est M. Fitzgibbon qui nous ont vendu ce projet comme le projet du siècle, mais on n'a rien vu d'ailleurs, on a tout perdu.
Mais Sam, je l'ai déjà senti plus solide, moi, Monsef Deragi.
Je pense pas qu'il est de très bonne humeur cette semaine, Monsef Deragi, parce que j'ai l'impression que c'est fait briser son élan. Il y avait toute la place. Son chef était absent là, dans les derniers mois, il faut le dire. Et il y avait une course à la chefferie avant, donc il y avait beaucoup d'espace. Là, tu as un chef qui arrive et qui arrive avec ses boulets, ses casseroles. Parce que Pablo Rodriguez, il a beau dire que tout ce qui s'est passé avant n'existe pas, ben il arrive quand même avec le bilan Trudeau sur les épaules. Donc, tu as bien fait de le souligner. Et il a mal expliqué parce que il aurait pu te répondre plus clairement en disant que le fédéral est allé chercher beaucoup plus de garanties hein, que le gouvernement du Québec. Et il perd moins de plumes dans cette aventure-là que le gouvernement du Québec. Donc, bon, bref, il n'avait pas relu son question-réponse sur Nordvolt où il n'avait pas préparé très bien cette question-là.
Mais le fédéral fait toujours ça parce que même dans le dossier du tramway, c'est sous facture que la ville va être remboursée alors que le gouvernement du Québec injecte de l'argent pour partir le projet.
Ben c'est ça. Donc, le gouvernement du Québec qui perd plus de billes là, dans cette histoire-là. Moi, ce qui me frappe aussi par rapport à la relation entre Pablo Rodriguez et ses députés, c'est qu'il arrive comme ça avec toute son expérience, avec certains boulets, mais on pourrait penser aussi que son expérience va être un point positif. Pendant le point de presse hier, là, c'était comme son premier point de presse à l'Assemblée nationale. il n'était pas très fluide. Là. Je veux juste dire, tu sais, puis là, c'est sûr, on n'a pas les images, on est à la radio, mais il regardait beaucoup ses feuilles et j'y voyais un mauvais théâtre, là, un petit peu.
On l'écoute.
Alors, si François Legault nous dit aujourd'hui qu'il a pris en même temps que vous, que nous, à regarder la TV, là, il y a un problème. Il y a un sérieux problème, ça veut dire qu'il n'est pas en contrôle. Ça veut dire qu'il contrôle absolument, absolument rien. S'il l'a appris avant, s'il le savait...
Les intonations.
Ça, c'est encore pire. Ça veut dire qu'il a participé lui-même à l'opération de camouflage. Et ça, c'est grave.
Grave.
Très, très grave. Merci.
Pascal, ça te convainc, ça?
Honnêtement, c'est sûr que ça a été pratiqué. Tu sais, tu l'entends, ouais. Les intonations. Il y a quelqu'un qui est passé en arrière, un expert de communication.
Oui, c'est pratiqué dans le miroir, là.
Mais il s'est pratiqué. Comme quand tu jouais aux Sims quand tu étais jeune, puis tu lui faisais pratiquer sa façon de prendre la parole en public.
Très,
là.
Très grave.
C'est grave. Puis après ça, t'as ton...
Mais je veux juste dire, là, on n'a pas l'image, mais il regardait sa feuille pendant que
c'était
ça. Ah
oui, clairement.
C'est comme... pas ressenti, puis ça, c'est dangereux, le manque d'authenticité.
Ouais. Puis après ça, il y a eu la période de questions, parce qu'il a passé son message, on a bien compris. Il y avait les titres qu'il voulait là, dans les journaux, tout a bien été. Mais la période de questions, il s'est fait brasser, notamment sur des questions complexes pour le Parti libéral. Et là, je pense à la laïcité, mm-hmm. Les prières de rue.
Oui.
On lui a demandé des détails. Et c'est pas toujours facile pour les libéraux sur cette question-là, mais encore moins pour M. Rodriguez, qui a un petit peu de difficulté à aller plus loin que la phrase de communication d'introduction.
Exactement. Puis on sait également qu'il vient du parti de Justin Trudeau, là, qui prônait le multiculturalisme.
Et qui finance la contestation judiciaire de notre loi sur la laïcité, projet de loi 21.
T'as entièrement raison. C'est très, très, très bien vu. 418-971-1021 pour réagir, parce que je suis certain que le prochain sujet va vous faire réagir. Les fameuses prières de rue. Hier, je t'ai envoyé ça. Jean-François Lisée, qui, sur la plateforme X, envoie à 5h02 regarder les prières de rue à Montréal. Et là, c'est un groupe islamiste qui est en train de prier dans la rue. Et il montre des images à Rome, à Toronto et en France. Et il dit que ça s'est fait au même moment dans les quatre villes. Ceux qui ne croient que ce n'est pas organisé... Hashtag bienvenue dans la naïveté.
Mm-hmm, absolument. Puis il se fait reprocher, M. Lisée, et d'autres personnes qui dénoncent les prières de rue, de partager des images de Rebel News, notamment, parce que c'est souvent les sources. Hein, ils suivent beaucoup ce dossier-là. Et c'est un média qui est controversé. Et là, le débat, c'est est-ce que c'est un vrai enjeu ou c'est pas un vrai enjeu? Puis tout ça arrive aussi dans un contexte où le gouvernement caquiste est dans la chenoute avec la commission Galant. Donc, c'est facile pour les détracteurs de la CAQ, il y en a beaucoup en ce moment, de crier à la diversion politique. Donc, est-ce que c'est un vrai enjeu ou pas? Moi, j'aime pas ça quand on dit qu'un enjeu est un faux enjeu. Si ça existe, après ça, on peut le prioriser, on peut trouver qu'il y a des choses plus importantes. Mais les faux dilemmes, là, d'aller dire, ben, pendant que les écoles tombent en ruine, on parle de prix. Moi, j'ai jamais embarqué là-dedans. Donc, il peut y avoir plusieurs enjeux qui sont importants mm-hmm. en même temps. Et ça nous amène à parler de la laïcité comme un enjeu plus large. Cet automne, cette session parlementaire qui, on ne sait pas à quelle date elle va commencer, c'est le 15 septembre, supposément, on verra si c'est toujours le cas. La laïcité va prendre beaucoup de place cet automne pour plusieurs raisons. Il y a trois raisons principales. La première, c'est que la question de la laïcité, ça demeure très, très populaire chez les Québécois. Okay? Sondage après sondage, environ 75% des Québécois appuient le projet de loi 21, la laïcité en général comme concept, mais aussi l'élargissement de notre loi sur la laïcité. Donc, ce qu'on voudrait, c'est d'aller encore plus loin.
Et par élargissement, t'entends là, justement le fameux voile porté, exemple, par les éducatrices en garderie ou les enseignantes qui est interdit. Là.
Il y a un rapport qui a été déposé par Maître Rousseau et Mme Pelcha là, la semaine passée qui fait une série de recommandations. Il y a le ministre de l'Éducation qui veut faire certaines choses dans les écoles. On a parlé effectivement des services de garde. Et il y a un appui qui est toujours très fort pour ça. C'est pas 100% des Québécois. Il y a des gens qui sont contre, qui sont vocaux, évidemment. Puis on pourrait penser que c'est juste les personnes âgées, les plus vieilles générations ou les gens de région, mais c'est quand on regarde les segments, les tranches d'âge et les régions, il y a quand même un appui qui est assez fort toujours au Québec. C'est très imbriqué dans notre culture au Québec. Mais là, quand on parle de prière de rue, on parle d'espace public. La laïcité, c'est quelque chose qui est lié à la machine étatique. C'est le gouvernement, nos institutions. Là, quand on tombe dans l'espace public, ça devient beaucoup plus compliqué. Moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va nous proposer concrètement pour limiter ce phénomène-là, les gestes de provocation qui dérangent beaucoup en ce moment, des prières tonitruantes devant les lieux de culte d'autres religions notamment, des fois liées avec des propos haineux. Évidemment, il y a le conflit à Gaza qui vient tout s'entremêler à travers tout ça. Est-ce qu'on va interdire les processions de prêtres entre une église et un autre lieu? C'est très, très compliqué, donc hâte de voir les propositions concrètes. La deuxième raison pour laquelle ça va être important, la laïcité, bien, la CAQ est toujours au pouvoir, pas très populaire, mais toujours au pouvoir, et le PQ est premier dans les sondages. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est probablement une surenchère. Puis déjà, avec les prières de rue, on a vu, il y avait une petite guéguerre, là, ces médias sociaux. C'est moi qui l'ai proposé en premier. Non, c'est moi, je l'avais dit le 2 décembre 2023.
C'est moi qui va frapper le plus fort.
Exactement. Donc, on voit qu'il va y avoir cette espèce de surenchère. Puis troisièmement, puis je t'en ai glissé un mot quand tu parlais du gouvernement Trudeau et de la laïcité et de M. Rodriguez. Notre loi sur la laïcité est challengée en ce moment devant les tribunaux. Pas sur le fond des choses comme telles, mais ça a quand même un lien. En fait, ce qu'on conteste du côté des groupes qui ont contesté notre loi, c'est qu'on a utilisé la clause dérogatoire de manière préventive. Pourquoi on utilise la clause dérogatoire dans le cas de la loi sur la laïcité? C'est qu'on contrevient à la Charte des droits et libertés du Canada et on a le droit, entre guillemets, de le faire. La clause dérogatoire, elle est là pour ça. Hein. C'est un outil qu'on a. Mais là, on dit qu'on l'utilise trop. Et on l'utilise avant même les contestations judiciaires. Donc, c'est ça la cause qui est devant les tribunaux. Mais si le tribunal, la Cour suprême, décidait qu'on était dans le tort, ça pourrait frustrer beaucoup les Québécois parce que ça veut dire que ça limiterait notre manière, en fait, notre capacité d'agir sur des questions comme la laïcité. Et je rappelle que les gens veulent un élargissement, mais aussi sur des questions de la langue française qui sont super importantes au Québec. On va parler beaucoup de laïcité cette année.
T'es au PQ, tu souhaites-tu justement que ça soit, que la Cour suprême tranche que le Québec n'a pas le droit pour dire « Hey, c'est le temps de devenir souverain? »
Mais je trouve que c'est un peu inconfortable pour la CAQ. Mais ils sont confiants. Le gouvernement est confiant. Le ministère de la Justice est assez confiant, gagner toutes les étapes. Mais si la Cour suprême devait dire non, vous n'aviez pas le droit d'utiliser la clause dérogatoire pour votre loi, et là, je le mets entre parenthèses, votre loi discriminatoire, raciste, parce que c'est ça que le reste du Canada pense de nos lois sur la laïcité puis notre vision du vivre ensemble, mais c'est du pain béni pour le PQ.
Clairement.
Parce que là, on se dit, on n'est plus capable de légiférer. Nous, notre Assemblée nationale, même si vous votez une majorité de députés qui vous promettent des choses, on n'est plus capable de légiférer, de faire des lois sur ces questions-là. On ne pourra plus protéger notre langue, on ne pourra plus pousser pour avoir plus de laïcité. Donc, c'est sûr que ça fait le jeu des souverainistes.
Exactement. Kim qui nous écrit, bon midi, gang, pas question de prier dans la rue. Dans mon pays et mon M-O-N majuscule, dans nos institutions, on doit enlever les signes religieux. Et c'est pas un signe religieux, prier dans le chemin, là, donc prier sur la rue. Alors, merci Kim et continuez à réagir au 418-971-1021. Pascal, Antonine, je vous fais écouter une portion de la conférence de presse de Géane Gamel, la coroner qui s'est penchée sur le dossier de cette mort tragique d'une fillette à Grimbay en 2019 qui a souffert de maltraitance, où elle blâme à peu près tout le monde et on en parle par la suite.
Il faut savoir que je ne suis jamais très mal à l'aise de nommer les choses. Puis j'aimerais ça vous dire la DPJ, mais tout le monde l'a échappé. C'est pas compliqué. Le médecin l'a échappé. Le milieu éducatif l'a échappé. La DPJ l'a échappé. Tout le monde a échappé cet enfant-là dans le système. Fait que c'est tout le monde doit porter son bout de blâme dans cette situation-là.
Antonine, t'en penses quoi?
Elle a absolument raison, puis j'ajouterais la police aussi.
Oui.
OK. D'abord, juste dire, Géane Gamel, c'est un visage très connu, hein, puis elle a commencé son intervention en disant « je dis les choses telles qu'elles sont », elle nomme les choses. Puis il faut juste pour rappeler les gens, peut-être que c'est un nom qui leur dit quelque chose, mais c'est aussi la coroner qui avait fait le rapport sur le décès de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette, cette femme autochtone, puis ça avait fait énormément de vagues à l'époque quand elle est décédée. C'est aussi la même coroner qui avait déposé le rapport sur ce qui s'est passé dans certains CHSLD pendant la COVID. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui brasse la cage, qui dit les choses. Et là, ce qu'elle nous dit aujourd'hui comme message, c'est bien, cet enfant-là, elle aurait dû être entendue. Okay? Le système l'a complètement échappé, mais un système, c'est fait par des personnes aussi. Puis il y a différents rouages à travers ce système-là. Et la petite fille est passée à travers chacun de ces rouages-là. Et ça s'est terminé par un décès tragique. Elle a souligné, elle a rappelé que les policiers sont venus à 24 reprises au domicile de cette petite fille. Donc, moi, je veux bien la DPJ, Puis je veux juste rappeler, la DPJ, c'est une organisation dans laquelle on a principalement des travailleuses sociales, souvent très jeunes, inexpérimentées, qui viennent de sortir un peu de l'école, un roulement énorme, énormément d'arrêts de travail. C'est dur aussi de travailler à la DPJ. Imaginez aller voir la misère humaine jour après jour après jour. Et quand on échappe un enfant, eh bien, on se fait reprocher, on se fait lapider sur la place publique. Il y a des poursuites
également.
Il faut
vivre avec ça. En plus, c'est émotionnellement et personnellement.
Donc, il faut que les autres rouages du système fassent aussi leur travail. Puis dans ce cas-ci, on parle aussi d'un policier qui a interrogé la petite fille pendant 8 minutes. Je m'excuse, en 8 minutes, une petite fille de cet âge-là, coachée par son père pour ne pas parler, ça ne peut pas s'ouvrir. On a fermé le dossier, on est passé à un autre appel.
Ça prend des fois une heure à établir le lien de confiance avec
un
enfant.
Une heure, des jours même.
Puis, tu sais, dans les langages, des fois, en DPJ, puis avec des intervenants, puis en psychologie, ce qu'ils se rendent compte, c'est que le vocabulaire pour l'enfant a été changé. Fait que juste apprendre à décoder ce qu'on a initié chez un enfant, à appeler ça sa petite fleur, mettons, son sexe, là, versus les vrais mots. Mais là, essayer de trouver de quoi elle parle, c'est quoi le
ça
jeu.
Ça prend pas 8
c'est
minutes,
c'est
super
difficile. Puis tu sais, dans les exemples que tu as donnés pour Madame Maître Jeanne Kamel, je comprends pas qu'on oublie ce cas-là, mais Rosalie Gagnon,
ben oui,
la jeune fille, le bébé qui avait été retrouvé dans une belle ordure,
oui,
j'en parlais avec Max
ici
matin, c'était elle aussi qui présidait le rapport de coroner. Cette femme-là a les deux pieds dans les rapports de TPJ depuis
connaît.
Toujours, elle s'y connaît. C'était ici, ça, Rosalie Gagnon, c'était à Charlebourg.
Et elle dit, oui, la DPJ, elle ne dit pas que c'est pas la faute de la DPJ, mais il y a eu toute une commission, hein, la commission Laurent sur la DPJ, donc beaucoup de recommandations, puis Pascal, tu vas en parler un peu plus en détail tantôt, mais il y a tout un pan qui avait été un peu ignoré. Et c'est pour ça qu'elle a beaucoup de recommandations pour le ministère de la Sécurité publique, le ministère de l'Éducation, Santé, Services sociaux, mais aussi la Justice, parce que ce père-là aurait dû être arrêté. Il aurait dû être enquêté. Il aurait dû être inculpé. Jamais ça n'aurait dû se passer. Puis je m'interroge toujours aussi, parce qu'au Québec, on compte toujours beaucoup sur le gouvernement pour tout, là. Puis on a un filet social qui est important, puis on ne veut pas échapper aucun enfant, et c'est normal. Mais je m'interroge aussi toujours sur notre responsabilité individuelle, sur comment, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. Puis il y a à peu près 100 000 signalements par année à la DPJ. Donc les gens le font, ils signalent, c'est intégré au Québec.
Énormément. Moi, dans mon rôle de gestionnaire de camp de jour, on avait toujours une formation par la DPJ avant chaque été, justement, pour pouvoir identifier, faire les signalements. Et on voyait les statistiques et c'est en hausse constante, les signalements à la DPJ. Donc, les gens sont vigilants.
Les gens sont vigilants. Par contre, je pense qu'on est moins prompt à appeler la police. Puis là, j'insiste beaucoup sur les policiers. Mais si vous voyez un enfant qui a des bleus partout ou qui traîne tout seul dans la rue, vous pouvez appeler les policiers aussi. C'est parce que la DPJ, elle est submergée aussi. Et il y a un autre élément que je trouve important de souligner dans la question de la DPJ, c'est que tous les signalements sont un peu traités de manière égale. C'est-à-dire que si, par exemple, tu es un enseignant, puis là, tu vois un enfant jour après jour arrive à l'école avec des vêtements qui sont pas propres, l'enfant lui-même est pas propre, il n'y a rien à manger, bien, on peut faire un signalement à la DPJ. Mais si un enfant fait est vraiment dans une situation épouvantable, terrible, maltraitance, violence, bien, c'est aussi la DPJ. Et je me demande à un moment donné si cette grosse machine de DPJ, qui est une machine importante, puissante aussi, c'est toujours la voie à suivre. C'est-à-dire que, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un triage très, très tôt où les cas plus léger, c'est-à-dire que ce n'est pas des parents qui maltraitent leurs enfants, c'est des parents peut-être qui sont mal équipés.
Un peu de négligence, manque d'outils.
Oui, manque d'argent. Là, la pauvreté est vraiment évidemment liée à tout ça.
Mais qui sont entourés d'amour, ces enfants-là, malgré tout.
Ben, quand les parents auraient besoin d'aide, en fait, ben, là, c'est plus les organismes familles qui doivent entrer en jeu, une bonne coordination pour qu'on les sorte un peu du système plus lourd de la DPJ, un système aussi qui peut être punitif, où les enfants, des fois, sont retirés de leur famille, etc. Donc, il y a toute une réflexion à faire avec la DPJ.
Scinder en deux, c'est ce que j'entends que tu dis, la DPJ, puis j'achète ça parce que tu parles des organismes, j'ai travaillé longtemps dans le domaine communautaire, et en effet, si on donnait plus de ressources à nos organismes communautaires, puis je vais penser à toutes les maisons de la famille qui existent dans chaque arrondissement, ces gens-là, justement, font de la pédagogie avec les parents.
Il faut les outiller, leur donner plus de ressources pour dégager la DPJ, pour qu'ils puissent justement se concentrer sur les cas plus lourds, les enfants vraiment qui vont être dans le système. Puis il y en a des enfants maganés au Québec. Là. Des fois, on se fait un peu des films là, qu'on est au paradis des enfants au Québec.
Mais tu avais sorti les statistiques par rapport à ça, justement.
Oui, puis bon, taux de maltraitance au Canada, on parle de 4 enfants par 1000 habitants. J'avais envie de le comparer avec les États-Unis parce que moi, je suis une grande fan de documentaires et j'écoute beaucoup de true crime. Et j'écoute beaucoup de documentaires sur des cas de famille, des trucs un peu glauques. Notamment, je pense à Gabriel Fernandez aux États-Unis, là, en Californie, là, qui est décédé. C'est un jeune enfant qui est décédé sous les mauvais traitements de sa mère et de son beau-père. Il y a un documentaire qui vient de sortir, je pense, sur Ruby Frankie, là, qui était une influenceuse mormone aux États-Unis qui maltraitait ses 6 enfants et qui est maintenant condamnée à la prison. Et aux États-Unis, c'est 2 fois plus élevé, ce taux-là de maltraitance. Et le filet social est complètement différent. Et j'ai l'impression des fois qu'il y a une tolérance peut-être plus élevé parce qu'il y a tellement de nouvelles. Tu sais, aux États-Unis, c'est énorme, beaucoup plus de gens. Les services sociaux ne sont pas toujours publics en passant. Là. La Floride, par exemple, les services sociaux sont privés, ce qui est un petit peu spécial quand tu y penses. Là. Même si tu es quelqu'un de droite, services sociaux, me semble. En tout cas, tu profites avec ça, ça me rend un peu mal à l'aise. Au Québec, je pense qu'on a quand même cette sensibilité qu'un enfant qui est décédé, qu'on a échappé, c'est un enfant de trop. Quand la fillette de Granby est décédée, ça a vraiment mis le Québec sans dessus-dessous. On a vraiment... Le temps s'est arrêté pendant un instant, puis il y a eu cette commission importante. Je pense qu'on n'accepte pas qu'il n'y ait aucun enfant qu'on échappe et que ça vient comme nous frapper en plein visage quand ça arrive. Puis je trouve aujourd'hui que ce rapport de la coroner vient compléter un peu le portrait et vient nous rappeler qu'il reste énormément de travail parce que... Puis encore une fois, Pascal, tantôt, tu vas aller un peu plus dans les détails sur la commission Laurent, mais ça couvrait beaucoup ce qui concerne la DPJ, beaucoup, beaucoup plus. On a pointé davantage du doigt la DPJ, mais il y a tout le filet autour aussi qui est aussi important.
Mais dans ce que fait, en fait, il y a un travail de main de maître qui s'est mené aussi entre Mme Jeanne Kamel puis Mme Régine Laurent auparavant. Les deux travaillaient sur des dossiers quand même connexes. Pourquoi on a eu la commission Laurent? C'est à la suite du décès de la fillette de Granby qu'on a lancé ça en 2019. Là, il y a quelque chose d'intéressant. Puis oui, on pointait la DPJ, mais on pointait beaucoup plus la structure. Comme quoi, elle est mauvaise. Ça fait que ça recoupe ce que tu dis, Antonine. Oui. Selon moi, elle est à revoir. Puis on parle souvent des intervenants, les gens sur le terrain. Ça paraît boboche. Puis on dirait qu'on c'est le jour de la marmotte. Mais je me questionne sur la hiérarchie aussi. Parce que des gestionnaires, t'en as besoin pour faire arriver des dossiers, pour être la courroie de transmission entre ce que le terrain dit. Mais la gestion au niveau du gouvernement, c'est beaucoup transformé en un patronat. Alors, est-ce que ton gestionnaire doit être automatiquement comme un patron et sentir que la décision est vraiment la meilleure par rapport à cette personne-là versus ceux qui sont sur le terrain puis dit voici quelle solution ce serait intéressant d'amener puis après ça que le gestionnaire les fait arriver en tranchant quand même sur certaines choses, mais on sent pas beaucoup d'écoute là, de haut en bas, là, dans cette hiérarchie.
En tout cas, une chose est sûre, c'est que les intervenantes qui travaillent à la DPJ, vraiment, à chaque fois qu'il arrive un événement comme celui-là, il faut aussi comprendre qu'il y a beaucoup de départs qui en découlent. Ouais. Donc, ça vient empirer le problème.
Ça crée beaucoup un stress chez les intervenantes qui, justement, comme tu le dis, il y a trop de cas pour le nombre de personnes qu'à l'heure actuelle. J'aime beaucoup ta recommandation de dire on envoie des cas plus légers dans les organismes communautaires. Je pense que ça serait une clé à aborder sans l'ombre d'un doute. On a un texto, même le juge l'a échappé. Elle a laissé à la garde du père malgré les signalements de violence.
Absolument.
On va faire écouter justement un extrait tout à l'heure là, de la coroner Gamel qui en parle. C'est ça le caucus Iaccarini, les amis. C'est du lundi au jeudi à partir de midi. On a fait le procès de Pablo Rodriguez. On a convenu pourquoi la CAQ s'attaquait aux prières de rue. Et on a terminé avec un dossier tellement émotif que ce décès de cette jeune fillette à Granby et le rapport de la coroner. On va en parler un petit peu plus tard justement avec Pascal CV. En attendant, on part en pause. Et par la suite, c'est Ruba Gazal, co-porte-parole pour Québec solidaire qui va être avec nous. On va parler notamment de la commission Galant de Nordvolt et des prières dans les rues. Restez avec nous, vous êtes à l'antenne de Boulevard 102. On en jase le midi. On en jase.